la nouvelle date, c'est le 24. Donc, demain soir, on va avoir une réunion très importante. Ce sera la réunion pré-départ. Espérons que tout va marcher tel que prévu pour qu'on puisse prendre le bateau le 24.
Bon, ben bonne chance. Puis tu nous réécriras. Sur le bateau, est-ce qu'on peut te parler quand tu vas être sur le bateau?
Oui, on va avoir accès à Internet.
Bon, parfait. Mais Nima Machouf.
Et ça me fait plaisir de vous parler.
Merci, c'est très gentil, on l'apprécie. Merci beaucoup, Nima.
Merci à vous.
Merci. Nima Machouf, épidémiologiste qui va s'embarquer pour une flottille portant 5000 tonnes de matériel vers Gaza dans les prochains jours. Après la pause, Marie-Ève Tremblay me force à parler d'environnement. Oh, attendez, il y a Benoît Charrette avant. Bonjour, Benoît Charrette.
Hey, salut, Luc Ferrandez.
Benoît Charrette, as-tu vu ça, que Honda va s'installer en Ontario, finalement?
Oui, ben c'est pas une grande surprise, là. On n'attendait pas, parce qu'il y a déjà une usine de fabrication qui est là depuis des décennies où on a fabriqué, entre autres, des Honda Civic. Et il y a un terrain qui est gigantesque. Je suis déjà allé visiter l'usine. Et là, ben on va confirmer jeudi, parce que là, la nouvelle a un petit peu fui ce matin. Doug Ford en a parlé dans une allocution à des peuples autochtones. Il n'y avait pas vraiment à faire en parler là, mais bon...
Doug Ford?
Eh bien oui. Et puis là, ben on va annoncer ça jeudi, mais ça va être une usine à la fois de batterie et de véhicules, donc les deux. Tout ce qu'il a dit dans sa brève allocution, c'est que ça va être le plus gros projet du genre qu'on a vu en Ontario. Donc, on sait que le plus gros à ce jour, c'est celui de Volkswagen, où on va débourser 7 milliards de dollars. Ça va être plus gros que ça. Il n'y a pas de chiffres qui sont sortis officiellement, mais il y a des rumeurs qui disent que ça pourrait aller jusqu'à 18 milliards de dollars. Donc, c'est une somme gigantesque. Mais là, prenez pas mon mot là-dessus. C'est des rumeurs. On n'a pas de chiffres encore officiels. Mais ce qu'on sait, évidemment, avec le Inflation Reduction Act des États-Unis, il faut arroser copieusement, là, si on va avoir des projets ici. Donc, ça devrait impliquer des engagements en capital et en crédit d'impôt à la fois de Ottawa et de l'Ontario. Donc, on va voir. Mais bon, c'est un gros projet. Ça va probablement aussi amener... on sait qu'un projet comme Northvolt va amener à peu près 3000 emplois. Donc, faut probablement compter dans ces eaux-là aussi pour un projet comme
ah,
ça.
Ah oui, sans doute beaucoup plus, parce qu'à 18 milliards, imagine-toi, Northvolt, c'est 16 milliards.
Oui, ben c'est ça, mais ça, c'est la rumeur, là.
Ouais. J'ai pas dit un chiffre officiel. D'accord. Par contre... ce qu'on sait, c'est que le Québec essayait d'attirer un investissement pour exactement le même descriptif, là, des cathodes, puis mais pas la production de véhicules, mais au moins la production de batteries. Là, ce qu'on croit comprendre, c'est qu'ils l'ont échappé, que c'est l'Ontario qui va l'avoir.
Exact. Mais je vous dirais qu'à ce point de vue-là, il y avait moins de chances que ce projet-là vienne au Québec. Parce qu'Honda était assez clair sur le fait que on voulait tabler sur des endroits existants, donc clairement à Liston en Ontario, parce que c'est là qu'ils sont établis, parce qu'on avait une force de travail qui était là-bas, l'expérience qui était là-bas, des travailleurs qui sont là depuis des années, donc ça c'est un capital important là, quand on veut investir et surtout aller plus loin, d'avoir une base qui est déjà solide, puis je pense qu'on s'est beaucoup fié là-dessus, et c'est une usine qui a une très bonne réputation par-dessus le marché, donc je pense qu'on n'avait pas des grosses chances, là. Northvolt, on a eu un excellent. On va travailler là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres, mais ça va rester du côté de l'Ontario.
Parfait. On devrait avoir les détails quand?
Jeudi. L'annonce va être faite jeudi par le gouvernement fédéral, donc probablement M. Trudeau et sa suite.
Là. Ils doivent-tu être pas contents que Ford ait pris la parole?
Oui,
mon Dieu!
Oui, puis là, pour une fois, c'est pas Trudeau qui s'est ouvert la trappe trop vite, là.
Non, c'est ça.
Pas de lui. Mais on aime ça, surtout un gouvernement des montants pareils, on aime ça, garder ça, puis faire un punch avec, mais là, la nouvelle est sortie un peu partout, fait qu'on va juste confirmer ce qui a fuité aujourd'hui, là.
Bon, mais merci beaucoup, Benoît, puis on se revoit sans doute, on s'en reparle sans doute jeudi.
Ça marche, merci Luc.
Bye. Donc, je vous disais qu'après la pause, Marie-Ève veut parler d'environnement. Mais pas juste qu'elle veut parler, c'est parce qu'elle a parlé à Catherine Perrin, qui a fait un documentaire sur l'environnement. Elle a écouté le documentaire, elle a questionné Catherine Perrin, et après ça, on en discute. Ça sera au retour de la pause.
Le menu du midi. votre émission d'information.
Pourquoi on prendrait pas cette année-là de secondaire 1 de révision, puis qu'on ferait pas de la matière vue normalement en secondaire 2, puis juste décaler, puis comme ça, on pourrait garder nos 50 secondaires, puis passer directement à l'université.
On pensait que ça serait le fun, Facebook. Puis on se lance là-dedans sans trop réfléchir. Puis là, après, on s'aperçoit que sur Facebook, il y a de l'intimidation, il y a de la fraude, il y a des disputes, il y a des complots. C'était le fun, Facebook, au début, hein? Ben là, ça l'a encore, mais ça l'est un peu moins.
Le meilleur russe du repêchage, Ivan Demidov, son contrat dans la KHL vient à échéance en 24-25.
OK, ça
donc, l'été prochain. Donc, c'est comme si on repêchait un joueur de la Ligue canadienne de hockey. Mettons que le Canadien repêchait Caden Lidstrom et qu'on le retournait dans les juniors, ben, il serait pas disponible avant la saison 25-26.
OK.
C'est la même chose pour Ivan Demidov. Puis, en plus, il a exprimé son désir de venir jouer en Amérique du Nord. Ça restera pas foiré à la maison. À la TV.
C'est à ça
que tu parlais,
là.
Du lundi au vendredi,
dès
midi.
Le centre de location Locaflex, c'est une entreprise locale détenue par des gens d'ici. Vous avez des projets de rénovation ou de construction? Faites confiance au centre de location Locaflex. Nous disposons d'équipements adaptés pour vos petits et gros travaux. Des outils pour le jardin, des équipements pour le béton, pour le chauffage et l'éclairage et bien plus encore. Cette année, je loue local. Je loue Locaflex. 194 avenue Léonidas Rimouski, 88-722-1212.
Vous grillez des guimauves à la perfection au-dessus d'un feu de camp qui crépite dans la nuit. Les flammes se reflètent et dansent sur la carrosserie lustrée de votre nouvelle Toyota qui se recharge dans le crépuscule. Une cigale chante à votre oreille.
OK, lui, c'est un maringouin.
Mais une chose est sûre, c'est que l'aventure vous appelle et que c'est l'occasion rêvée avec la vente étiquette rouge présentement en cours chez Toyota. Profitez-en pour magasiner votre BZ4X 2024. Visitez achetezmatoyota.ca ou un concessionnaire Toyota du Québec dès aujourd'hui.
Le beau temps approche à grands pas et chez Batterie Expert, nous sommes prêts à vous faire vivre une saison inoubliable. Avec une vaste sélection de vélos, quadriporteurs et autres petits véhicules électriques, nous vous invitons à découvrir l'aventure qui vous attend. Nos experts sont là pour prendre soin de vos besoins en entretien et réparation sur place. Pour l'entretien de votre terrain, nous vous proposons les produits Ego, tondeuses, coupe-herbes, souffleurs à feuilles et autres accessoires. De plus, ne manquez pas notre collection d'accessoires solaires. Batterie Expert, 145 montées industrielles et commerciales, Rimouski.
Des animateurs de talent, des chroniqueurs pertinents. Vos idées en liberté. Avec CFIX FM 93.
Au réseau Cogeco, vous écoutez sans réserve.
Sans réserve.
Parce qu'il y a toujours une solution. Voici Marie-Ève Tremblay.
Marie-Ève, tu as vu un documentaire réalisé par, peut-être pas réalisé, animé.
Animé, oui, par Catherine Perrin.
Elle a dû, sans doute, contribué à toutes les étapes parce qu'elle est très, très présente dans notre
très carrière. Impliquée, oui, ouais. Catherine Perrin, qu'on connaît, collègue à Radio-Canada. Juste avant, parce qu'on va parler environnement, j'ai une question pour toi, Luc. Est-ce que tu as mis ton casque de vélo ce matin?
Ben, imagine-toi qu'un matin, je l'ai oublié.
Tu l'as oublié parce que là, je sais pas si tu te souviens, mais la semaine dernière, il y a un auditeur qui disait que tu avais le droit de parler environnement que quand tu allais mettre ton casque de vélo. Alors, à partir de maintenant, tu ne parles plus. Non, c'est pas... c'est une blague. Catherine Perrin a publié un documentaire. Elle a animé un documentaire diffusé à Radio-Canada. Ça s'appelle « Virage vert, les règles du jeu ». Et j'ai décidé de l'ajouter à notre discussion aujourd'hui sur le jour de la Terre parce que je veux qu'on parle des bons et des moins bons coups pour l'environnement. Si on regarde dans le rétroviseur en fonction des dernières années. Pourquoi elle a fait un documentaire sur l'environnement? Parce que ça peut paraître particulier. C'est une musicienne, c'est une animatrice. On l'associe beaucoup à la culture. C'est la première question que je lui ai posée. Elle m'a dit, écoute, moi, j'ai toujours été très connectée à la nature. J'ai même jamais eu de voiture. Et là, elle me raconte qu'elle a un chalet dans les Laurentides. Ben, elle y va en train. Ensuite, elle utilise un taxi collectif. Oui, puis c'est pas parce qu'elle n'a pas de permis de conduire.
Elle marche à Saint-Jérôme en train, parce que ça va pas tellement plus loin, là.
Ouais.
Maintenant, c'est la route verte, ça a été transformé. Là, l'ancien petit train du Nord, c'est une piste de bégo. Donc, après ça...
Un taxi collectif, un taxi partagé.
Dans le coin de Gore. Elle, je suis en train de deviner ce qu'est son chalet.
Ah, OK. Mais alors, on le dira pas publiquement, mais...
Non, mais je me sens
aussi. C'est d'autant plus intéressant de savoir qu'elle a un permis de conduire, là.
C'est pas quelqu'un qui dit j'ai
pas de voiture, je prends le train, j'ai pas de permis. Non. Elle dit c'est important de conduire, mais moi, dans sa réalité à elle, c'est possible de vivre sans voiture. Et là, on le sait, puis on en a déjà discuté. Il y a des lieux privilégiés, là, géographiquement placés pour ne pas avoir de voiture. Elle le dit. Moi, c'est un peu comme Valérie Plante, c'est-à-dire je suis près des transports en commun, près du train, tout ça.
Elle a fait ce choix-là.
Et elle m'a expliqué qu'il y a 20 ans, elle a fait une chronique dans une émission du matin à Radio-Canada, et que depuis ce temps-là, elle harcèle une chronique sur l'environnement. Et depuis ce temps-là, elle harcèle les patrons pour faire une émission sur l'environnement. Je lui ai demandé pourquoi ça a pris autant de temps.
C'est qu'on me disait, moi, on sait pas, on a peur que les gens trouvent qu'on veut leur faire la morale, on a peur que les gens trouvent que c'est négatif. Mais c'était surtout cette idée, les gens veulent pas se faire faire la morale. Puis moi, je leur disais, oui, OK, mais c'est pas ça qu'on peut faire autre chose que faire la morale. Puis quand on a fini par lancer feu vert, les deux mots que j'ai mis en opposition, c'est on veut pas être moralisateur, on veut être mobilisateur. Puis moi, c'est vraiment dans tout ce que je fais par rapport à l'environnement, c'est vraiment ça ma ligne. Je veux pas moraliser, je veux essayer de mobiliser. Je veux essayer que les gens se sentent pas impuissants parce qu'il y a des constats qui sont vraiment épouvantablement anxiogène, mais en même temps, on a une capacité d'action, on sait qu'est-ce qu'il faut faire, puis l'idée c'est, OK, go, comment est-ce qu'on peut se mobiliser?
Et on l'oublie, là, c'est tout récent qu'on parle beaucoup, beaucoup d'environnement, parce que il n'y a pas si longtemps, là, je ne sais pas si tu te souviens, mais environnement, c'était grano. C'est des granos qui parlent de ça. Ça intéresse personne. C'est pas sexy. Alors, ça explique peut-être aussi pourquoi elle harcelait, puis que, harcelait, on le met entre guillemets, ouais, là, ses patrons, mais qu'il y avait plus ou moins de réponses positives. Mais là, maintenant qu'on en parle, moi, je trouve que c'est une approche idéale de ne pas tomber dans la morale. Même moi, j'ai une émission sur l'environnement à Explora depuis 5 ans. Puis dès le départ, c'est ce qu'on souhaitait faire parce que c'est beaucoup plus facile de rallier, de sensibiliser quand tu dis « voici ce qui existe » plutôt que de dire « tu fais ça mal, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça ». La réaction normale des gens, c'est de dire « on est en train de me prendre en défaut, ça ne devrait pas, tu m'intéresses pas, change de poste ». Alors ça, c'est une approche qui a de l'allure, je trouve, puis qu'on devrait avoir la plupart du temps, puis pour plusieurs sujets, parce qu'on tombe souvent dans la morale quand on veut passer certains messages. Je lui ai demandé s'il y a quelque chose qu'elle a appris dans son documentaire qui l'a surprise. On la réécoute.
Moi, je savais pas à quel point ce qu'on appelle les marchés publics, c'est-à-dire tout ce que les gouvernements achètent comme biens et comme services, ça peut jouer un rôle déterminant pour aligner l'économie d'une manière plus, justement, plus verte, moins polluante, sans que ça coûte vraiment plus cher. Parce qu'en fait, en achetant cheap, puis en achetant pas écologique, ça coûte très cher parce qu'il faut souvent réparer, remplacer ce que les gouvernements achètent parce que justement c'est pas durable. En achetant plus durable, en acceptant dans des appels d'offres de dire, OK, si vous nous proposez un bien ou un service qui va être plus durable puis que vous pouvez nous le prouver, qui va avoir un impact favorable sur l'environnement, on accepte que le prix soit un peu plus élevé. Si on commence à faire ça comme on le fait dans plusieurs pays dans le monde, ben ça envoie un signal à l'économie, ça envoie un signal. Oh, OK. Donc, si moi, j'améliore mes pratiques, j'ai plus de chances d'avoir des contrats avec les gouvernements qui vont être intéressants. Puis ça, je trouve ça stupéfiant de voir qu'il y a des pays qui sont rendus très, très loin là-dedans, puis que nous, on commence à peine à y penser.
C'est quand même 14 % du PIB du Canada, là, ce marché public. Moi, je ne savais pas non plus, en visionnant le documentaire, je l'ai appris, ça représente 350 milliards de dollars par année. Je pense que lieu de faire mieux, mais toi, tu pourrais peut-être répondre à cette question-là. Pourquoi on n'est pas plus efficace relativement à ça, ces achats-là?
Bien, il y a souvent eu dans les offres, des appels d'offres, il y a souvent des critères qui disent on veut vous assurer que ça soit un projet en développement durable, puis que vous devez répondre à tous les critères. Sauf que ça représente quelques points par rapport à l'ensemble des points que tu peux aller chercher pour gagner l'appel d'offres. Les coûts, évidemment, sont importants, l'emploi local, la rapidité de service, et j'ai pas besoin de te dire que quand le gouvernement se lance dans un projet, par exemple, préparer un chalet de parc ou une école ou une aile d'un hôpital.
Ça se fait un claquement de doigts,
ouais,
j'arrive à le dire.
Ouais, c'est ça, mais non, pas c'est ça, voilà. C'est que ça fait des années qu'il est décrépit, et là, finalement, il y a le budget, et là, ça fait déjà 2 ans que c'est en conception, appel d'offres, les gens, qu'est-ce que vous faites, mon Dieu, que c'est long, etc. Alors, ils vont plus vite. Puis ils vont mettre quelques points pour l'environnement, le développement durable, mais pas l'ensemble des points, ça c'est certain là.
Et puis après 2 ans, la chaise de bureau brise, on la remplace par un autre.
Ben
truc qui...
en fait, si des fois c'est des pas juste des chaises de bureau, comme par exemple dans son reportage documentaire, il y a l'usage du sol pour faire de l'assainissement et ça marche très bien. On l'a reçu d'ailleurs, le président de l'entreprise, c'est au sol, je me rappelle plus du nom, et puis puis c'est extraordinaire ce qu'il fait là. Et c'est, le sol, ça pompe de l'eau, ça pompe beaucoup d'eau du sol et ça décontamine cette eau.